Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de Fawaz Hussein, écrivain français d'origine kurdo-syrienne. Alors nous vous avions reçu déjà pour évoquer avec vous les sables de Mésopotamie, qui était la première partie d'une œuvre autobiographique que je pourrais qualifier de monumentale en attendant le troisième volume, voilà, qui va peut-être paraître bientôt. C'est une épopée romanesque, celle de votre vie, depuis un petit village du nord de la Syrie, où vous évoquez avec une certaine nostalgie, je dois dire, la Syrie des communautés, celle des musulmans, communauté des Kurdes musulmans, communauté à laquelle vous appartenez, et celle aussi des chrétiens. Voilà, alors nous allons évoquer la suite de cette histoire. Bonjour Fawaz Hussein.
Bonjour.
Alors si je vous reçois ce matin, c'est qu'il y a un livre qui vient de sortir, enfin qui est en librairie depuis quelque temps déjà, La prophétie d'Abouna, Jinko éditeur. Quelle est cette prophétie ?
Cette prophétie, elle a été faite par le directeur de mon école primaire, il y a très très longtemps, il y a au moins 50 ans. Et comme j'ai dit la dernière fois, un jour mon père est arrivé à la maison avec trois cartables et il nous a demandé à moi et à mes deux frères de le suivre. Et c'était le jour où je suis allé à l'école pour la première fois. Je me suis trouvé devant un monsieur habillé tout en noir, les cheveux noirs, la barbe noire, les chaussures noires. Il avait une chose en or sur la poitrine, c'était immense. Et après j'ai compris que c'était une croix. Et ben voilà ce monsieur que j'ai rencontré il y a 50 ans au moins.
Rappelez-nous le village, pardon, vous êtes originaire d'où
voilà, exactement? Alors je suis né dans un tout petit village qui s'appelle Kurdo, qui est à 13 kilomètres de la ville d'Amouda, parce qu'Amouda est considérée quand même comme une ville quand même assez importante en Syrie, ou comme on dit maintenant aussi le Kurdistan de Syrie. Alors ce monsieur qui s'appelle vraiment, qui s'appelait en tout cas, parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu, Père Kato, quand j'ai réussi au bout de 2 ans, quand j'ai réussi à compter jusqu'à 10 en français, pour lui, c'était une série de miracles qui se déroulaient sur le sol de la Mésopotamie. Et il m'a dit, mon petit Kurde, Fawaz, un jour, tu vas quitter cette petite ville au pied des montagnes et tu vas aller à Paris. Et là-bas, il y a une prophétie qui t'attend. Bah, tu vas certainement devenir un écrivain. Et moi, j'étais tout petit. J'ai dit oui, mon père ou notre père, parce que nous, on dit notre père plutôt. Ici, on dit mon père.
Abouna, c'est-à-dire.
Abouna, oui, on dit en arabe Abouna, ça veut dire notre père. Et c'est vrai, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de lettres à Alep pendant 4 ans. Et quand j'ai eu ma licence, j'avais de bonnes notes. Je pouvais quitter la Syrie et je suis arrivé à Paris le 28-8-78. Et c'était pour aller à la rencontre, à la réalisation de cette prophétie faite par ce prêtre catholique que j'ai rencontré, comme je l'ai dit, il y a 50 ans.
Alors ce qui est tout de même étonnant dans votre parcours, c'est que nous sommes dans la Syrie du Nord. Amouda, je crois, est un village qui maintenant est à la frontière turque, donc dans cette zone qui est ravagée par la guerre. Un petit musulman comme vous, allant dans une école catholique, paraissait tout à fait normal à l'époque.
Oui, il y a 50 ans, parce que la communauté kurde, la communauté turque, elle est, je dis n'importe quoi, excusez-moi. La communauté chrétienne était très très importante dans cette ville. C'est pas vraiment un village, c'est plutôt une ville, et c'est la ville la plus ancienne, la plus importante de ce qu'on appelle la Mésopotamie syrienne, parce qu'elle est plus importante cette ville, qu'elle était plutôt plus importante qu'Amishli, elle était plus importante qu'Aseke, maintenant où les combats se déroulent. Elle est très très ancienne. Alors, la communauté chrétienne était très importante. Les chrétiens possédaient presque tout le commerce dans la ville. Et nous, on était là. Et puisque les chrétiens avaient aussi de bonnes écoles, alors c'était tout à fait naturel pour un petit Kurde d'aller dans ces écoles, parce qu'il y en avait trois, une école pour les Arméniens, et les autres, c'était pour les chrétiens, les autres. Et c'était des écoles pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, cette tradition continue. Il y a toujours des chrétiens tient pas à Mouda mais à Kamishli, et les Kurdes, les musulmans, continuent à envoyer leurs enfants dans ces écoles.
Alors, ce qui est très amusant dans votre livre, c'est que vous décrivez le moment où vous quittez l'école coranique, donc qui était la seule forme d'enseignement que vous aviez en tant que petit enfant, et que votre père donc vous donne ses cartables et vous amène dans un autre univers. Donc vous passez mais complètement d'un monde à un autre finalement.
Exactement, parce que voilà, tout enfant kurde doit d'abord commencer par l'école coranique, ça veut dire, et pour nous les Kurdes, c'était très très important de fréquenter cette école. Premièrement parce que quand je suis allé à l'école, je ne parlais que le kurde. Et grâce à l'islam, grâce au Coran, j'allais apprendre la langue arabe, qui était la langue de la nation, qui est toujours la langue de la nation, et qui était la langue de l'évolution, du progrès, des études faites après. Alors, pour mes parents, c'était très très important d'aller d'abord à l'école coranique pour apprendre le Coran et être un bon musulman aussi, pourquoi pas. Et après, aller à l'école catholique pour apprendre le français et l'arabe en même temps. Et voilà, c'était pas une contradiction, c'était pas un déchirement pour moi de fréquenter ces deux écoles, et en réalité, ben je suis fait comme ça, j'ai pas inventé cette vie, j'ai pas inventé cette histoire, et ça c'est mon passé, et c'est le passé que j'essaie de raconter sans arrêt presque dans tout ce que j'écris, surtout dans les œuvres autobiographiques.
Et cette nostalgie que j'évoquais peut-être en introduction, est-ce qu'elle est ancrée quelque part? Est-ce que vous y pensez souvent? Vous avez cette aspiration, pardon, aux origines?
Oui, je pense que ce passé me hante pour plusieurs raisons. Parce que si je vais plus ou moins citer Albert Camus, qui dit à un moment donné, mais je ne vais pas vraiment le citer, ce qu'il dit, c'est plus ou moins ça. Il dit, si j'ai des difficultés à me mettre en règle avec la nuit, et à considérer la beauté du jour comme un souvenir. C'est ça, parce que tout simplement j'ai des difficultés à m'adapter à cette réalité, l'insatisfaction du présent et le désespoir du passé, et c'est ça ce qui me jette plus ou moins dans les bras du passé. Alors le passé, pour moi, bien sûr, je ne veux pas vivre, m'enfermer dans le passé, parce qu'un homme qui ne vit que dans le passé, c'est un homme fini, mais tout simplement, c'est vrai, j'ai des difficultés à voir la beauté du jour, cette beauté que j'ai rencontrée dans mon enfance, comme un souvenir.
Et cette prophétie d'Abouna vous accompagne-t-elle toujours?
Je pense que oui, puisque si je suis là maintenant, si je suis ici à la maison de la radio, c'est parce que tout simplement, voilà, dans ma tête, j'avais envie d'écrire une sorte de triptyque. La première partie, c'était Les Sables de Mésopotamie, ce livre qui est sorti en 2007. Le deuxième volet, c'est la prophétie d'Abouna qui est sorti en 2013. Et moi, je m'apprêtais vraiment à retourner en Syrie et écrire le troisième volet, la troisième partie. Et malheureusement, il y a eu tous ces événements, ce chaos que je n'arrive pas à décrire. Et je suis très très frustré parce que je n'arrive pas vraiment à écrire le troisième volet, la fin de cette prophétie qui a été faite par ce prêtre catholique.
Plusieurs fois, vous vous définissez dans votre écriture comme Syrien, comme Kurde, mais surtout comme Mésopotamien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Vous voyez, ça veut dire, avant la guerre en Syrie, c'est vrai, j'avais plutôt tendance à me considérer plutôt comme un Kurde. Voilà. Mais c'est vrai, depuis que les événements ont éclaté, depuis le mois de mars 2011, je ne sais pas, je me rends compte que l'identité que j'ai refuse d'être une identité simple. Et l'identité que j'ai, que nous avons tous, sont des identités multiples en réalité. Et je pense que s'acharner à avoir une identité simple, c'est se tuer. C'est une sorte de se suicide. Alors ces derniers temps, c'est vrai, quand je vois tout ce qui se passe en Syrie, j'ai tendance à dire que je suis plutôt, enfin que je suis syrien, que je suis kurde, que je suis de cette région du monde. Et je pense que, enfin ça c'est mon avis à moi, je pense que notre avenir c'est de vivre tous ensemble, ça veut dire les Arabes, les Kurdes, les musulmans sunnites et chiites. Vous voyez, les gens se battent ici maintenant, combien 14 siècles plus tard, on se bat parce que qui doit remplacer Mahomet après sa mort? Est-ce que c'est Ali, le cousin, tout ce qui a donné la naissance au chiisme et au sunnisme, etc. Je trouve que c'est absurde, cette guerre qui a lieu sur le sein de ce que je vais terminer avec la Mésopotamie.
Pour revenir sur ce personnage d'Abouna, qui est quand même un personnage central dans votre œuvre d'abord, parce que vous en parlez régulièrement, et dans votre vie, j'ai l'impression. Dans cette Syrie des années 60, la religion était distinctive entre les individus ou pas? Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous étiez le petit musulman dans un coin?
Pas du tout.
Ou vous sentiez tout à fait libre comme les autres?
J'étais libre comme tout le monde, et j'avais des amis qui s'appelaient Joseph, Albert, Michel, et il y avait beaucoup de Kurdes aussi qui étaient là. Ça veut dire on vivait tous ensemble. On était là vraiment, personne ne pensait qu'il était musulman ou qu'il était chrétien, on était tous là, et le prêtre, il était là, il veillait sur nous, et voilà, on avançait, et la vie nous ressemblait à une grosse pomme juteuse qu'on allait tous croquer, tous ensemble, et c'est comme ça, et les problèmes, bien sûr, sont venus après, et surtout depuis 2011, on voit dans quel état est la Syrie et l'Irak depuis avant.
Est-ce que vous avez gardé des amis de cette époque? Est-ce que vous avez des nouvelles de cet Abouna?
Alors malheureusement non. Avant, jusqu'à 2010-2011, je rentrais chaque année, je chargeais les batteries. Ça me faisait énormément de bien de retourner à Amouda. Il restait deux familles ou trois familles chrétiennes, dont une famille arménienne. Alors, j'avais encore des amis que j'allais voir, mais le monde avait changé. Ça veut dire, on peut pas nager deux fois dans le même fleuve, et le retour d'Ulysse ne va pas être un retour vraiment si facile, si heureux, parce que dans d'autres versions de l'Odyssée, Ulysse, après son retour, il va dire qu'il est à Pénélope, il va dire qu'il est de passage. Et moi aussi, quand je retournais, au bout d'un certain temps, une semaine ou deux, je voyais que j'étais de passage. Mais malheureusement, ce monde avait disparu. Seulement les églises étaient là, dans un état délabré, et les portes étaient fermées. Tout ce qui était à l'intérieur, on les avait transportés dans les villes voisines, à Kamchli ou à Aseka. Les chrétiens n'avaient plus de présence dans cette ville. Même, ils étaient venus chercher leur tombe. Les chrétiens étaient venus chercher leur tombe pour les déplacer, pour les mettre à Saké ou pour les mettre à Kamchli ou ailleurs.
Les cimetières avaient été vidés pratiquement de leur...
Voilà, il y avait dans la ville, si vous demandez à n'importe qui à Amouda, il va dire il y a trois cimetières. Il y a le premier, le plus ancien, il a été rasé. Le deuxième, c'est le cimetière des martyrs. Il a pris de l'importance surtout avec l'incendie du cinéma qui a fait 200 ou 300 enfants kurdes et arabes et tout le monde. Et il y avait le cimetière chrétien qui était le plus ancien. Et avec le départ des chrétiens, malheureusement, ce cimetière a été abandonné, comme beaucoup d'autres cimetières qui sont abandonnés, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Alors les chrétiens, ils ont pensé peut-être à leurs racines, à leurs morts. Ils sont venus chercher, beaucoup, beaucoup de familles sont venues chercher leur tombe, leur mort aussi.
Est-ce que vous avez des nouvelles actuellement de cette partie du monde ?
Les nouvelles, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je me renseigne, je regarde la télé, je regarde Al Jazeera, je regarde France 24. J'essaie de m'informer. Et franchement, je vous dis, je n'arrive pas à avoir une idée nette et claire. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment le chaos absolu. Et la guerre en Syrie, c'est pas une guerre syrienne vraiment. On voit que tous les pays voisins, et même les pays beaucoup plus, qui sont loin, ils sont présents. L'Iran est présent, la Turquie est présente, l'Arabie Saoudite, le Hezbollah libanais. On voit que tous les gens se battent par procuration en Syrie, et c'est le peuple syrien qui paye le plus lourd tribut.
Donc pour vous, lorsque l'on dit guerre civile, c'est finalement pas vrai?
On l'a voulu, on veut créer une guerre civile, on veut régler des comptes, mais c'est vrai, on trouve un Afghan sunnite va se trouver avec un Afghan chiite en Syrie. régler des comptes en Syrie. Et c'est la même chose pour les Irakiens et c'est la même chose pour tout le monde. On dit qu'il y a au moins 1000 Français qui sont là en Syrie à se battre. Et vous parlez dans votre livre de ce nouveau tourisme, c'est-à-dire les gens qui vont là-bas. Avant, on allait pour voir Palmyre, pour voir Damas, la vieille mosquée, les églises, etc. Maintenant, les gens vont en Syrie pour les raisons que nous connaissons tous. Malheureusement, le problème syrien, c'est pas comme le problème tunisien ou comme le problème plus ou moins même libyen. Je peux dire que c'est un problème beaucoup plus complexe parce que tout le monde est présent dans ce conflit et qui nourrit ce conflit.
Est-ce que ce qui a été perdu peut être retrouvé? Est-ce que ce partage de vie entre les communautés dont nous parlions tout à l'heure, en faisant référence au village de votre enfance, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut revenir?
Je pense que la blessure est très très grande et la souffrance est immense. Et je pense que ça va être très très difficile pour nous tous de désapprendre cette violence et chercher une identité plurielle, chercher la diversité, un mot qui vous est très cher. Ça va être très très difficile parce que c'est vrai, 200 000 morts, c'est ce qu'on dit, je me méfie des chiffres parce que les chiffres on peut jamais les vérifier, mais la moitié peut-être, un tiers des Syriens sont déplacés ou sont en dehors de la frontière de la Syrie. Ça va être très très difficile de faire marche arrière, de réapprendre à aimer, à s'aimer et à partager le même pain.
Et vous avez des projets d'écriture qui sont liés éventuellement, qui étaient liés à ce retour. Est-ce que c'est un livre que vous pouvez écrire dans la diaspora en vous projetant ou c'est pas possible?
Oui, merci pour cette question parce que c'est exactement ça. Les sables de Mésopotamie, c'est les premiers 25 ans de ma vie. La prophétie d'Abouna, c'est encore un quart de siècle de ma vie. Et j'avais projeté d'écrire la troisième partie et d'imaginer mon retour. Ça veut dire un retour vrai, mais bien sûr de faire de l'autofiction. Mais avec ce qui se passe en Syrie, c'est vrai, je ne peux pas le faire. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien lire à la fin de mon dernier livre comment je projetais ce retour et cette écriture. Et malheureusement, ça ne va pas être facile avec tout ce qui se passe en Syrie. Alors, à la fin de ce livre, le prêtre catholique, quand je prends la décision de retourner en Syrie, il vient, il entre chez moi, sans frapper à la porte, parce qu'il a ses propres clés. Et on comprend que cet homme représente l'inconscient chez moi. Alors, il va me dire, il va approuver mon projet de retour. Et moi, ce que je vais dire après, comme 25 ans auparavant, j'allais rentrer avec un aller simple et une volonté à abattre les montagnes. J'allais me mirer dans les eaux bibliques et y déchiffrer les cunéiformes de mon destin. Il me fallait passer le temps qui me restait à cultiver mon jardin suspendu laissé en jachère et retrouver mon écriture plurimillénaire. La boucle était bouclée. Alors, puisque je n'ai pas pu faire ce projet, alors l'été dernier, je suis allé en Turquie et j'avais un projet. Je voulais passer une nuit entière à côté de la frontière, dans la plaine de Mardin, à regarder les lumières de ma ville. Alors mon personnage s'éloigne beaucoup plus de moi parce que dans les deux premiers tomes, je reste dans l'autobiographie, mais dans la troisième partie, dans le troisième volet, si vous voulez, je m'éloigne davantage de moi et j'entre vraiment dans ce qu'on appelle l'autofiction. Et mon personnage, il va faire un voyage, il va aller à Istanbul et de là-bas, il prend l'avion jusqu'à Diyarbakir. C'est des villes que vous connaissez très bien. Et de là-bas, il va prendre l'autocar pour descendre jusqu'à Mardin. Et en bas de Mardin, il y a la plaine et il y a bien sûr la Syrie, où il y a le Kurdistan de Syrie, comme on dit Rojava. Et lui, il va se trouver en face de la frontière, en face de ces champs de mines, devant les barbelés, les miradors. Et il va essayer de passer cette nuit qu'il voulait, mais la nostalgie va être plus forte. Je retourne toujours à la nostalgie et à la mémoire. Alors il va avancer, il va faire quelques pas. Et quand il avance, il fait quelques pas, il va avancer sur un sol miné. Et à ce moment-là, il va retrouver toute son enfance, tout son passé vécu dans cette petite ville à Mouda.
Est-ce que pour vous, il y a une continuité culturelle justement entre cette frontière syrienne et cette frontière turque? On parlait du monde mésopotamien tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ces frontières existent véritablement ou pas?
Non. Franchement, pour moi, ces frontières n'existent pas parce que je me souviens très très bien, il y a très très longtemps, il y a 50 ans, je pense que j'avais que 10 ou 12 ans, c'était le premier jour de la fête religieuse des musulmans, je ne sais pas si c'était la grande ou la petite, et à l'époque, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement turc, ouvraient la frontière, parce que pour que les Kurdes de Syrie aillent visiter les parents, en turc on appelle ça görüşme. Görüşme, ça veut dire la rencontre, les retrouvailles, je pense. Une fois je suis allé de l'autre côté, alors c'était pour la première fois de ma vie que je quittais la Syrie sans passeport, sans papier, sans rien du tout. Et en principe, je me rendais dans un autre pays. Mais c'était comme si je restais à Amouda ou j'allais d'un village kurde de Syrie à l'autre. Parce que les gens de l'autre côté, ils parlaient exactement le même accent que moi, la même langue que moi, ils avaient le même accent que moi. Ce qu'ils nous offraient à manger et à boire, c'était exactement le même blé concassé, le même poulet. Et en réalité, quand il y a eu quand on l'a décidé, quand les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont dessiné la frontière sur les décombres de l'Empire ottoman, ils n'ont pas vraiment fait attention aux composantes de cette région. Alors, si vous voulez, la frontière, c'est comme un couperet qui a coupé le corps kurde en deux parties plus ou moins égales. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ma famille et moi, nous sommes peut-être une trentaine. Nous avons une trentaine de villages de ma famille en Syrie, et il y a exactement la même chose en Turquie. Mais ce qui est arrivé en Turquie, c'est que là-bas, puisqu'on a changé le nom de tous les Kurdes, alors quand je me promène en Turquie, peut-être que je passe à côté de mes parents, mais je ne reconnais plus personne.
Avec Fawaz Hussein, nous avons donc évoqué ce matin à Chrétien d'Orient la prophétie d'Abouna, voilà le deuxième volume d'un triptyque dont nous attendons un jour certainement l'écriture du troisième, voilà lorsque la paix reviendra en Syrie. Jinko, éditeur, Fawaz Hussein, la prophétie d'Abouna. Je remercie Dany Journeau, Didier Pinault et Philippe Palares pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion, sur le site internet de France Culture. Et nous retrouvons maintenant le service protestant.